Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, un rendez-vous jeu avec un programme chargé où on va se charger de vous résumer tout ce qui s'est passé dans l'actu du jeu vidéo. Il y a eu des sorties, des tests, des événements majeurs de l'industrie qui ont été modifiés, annulés. Tout le monde est sous le coup du Covid-19. On va en parler un petit peu, mais évidemment dans le cadre de l'industrie du jeu vidéo. On va pas parler que de ça, et même pas beaucoup au final. Donc j'espère qu'on vous permettra de vous changer un petit peu les idées. Et pour ça, on va commencer non pas avec l'annulation de l'E3, qui est peut-être un événement compliqué et un peu négatif, mais avec un truc positif, c'est-à-dire la guerre partout, la guerre entre tous, Call of Duty Warzone, un truc qui est plutôt cool. Et avant ça, on va se présenter évidemment, parce qu'on est des gens polis, je suis Patrick Béja, et celui qui clique son stylo, c'est Jika. Est-ce que c'est toi, Jika, qui cliquait le stylo ?
Et non, manque de bol, c'était pas moi, parce que moi j'ai coupé mon micro, parce que je suis un élève appliqué.
Bon, écoute, Thomas. Je suis en train de recevoir un coup de fil de ma femme, donc on pose une seconde. Et donc, les bureaux de ma femme ferment aussi, donc vraiment c'est partout. Bref, Jika, t'es en forme? Tout va bien?
Moi ça va très bien, tout va bien, je suis un guerrier, tu sais, donc, et mon fils aussi, donc je pense que même si bon, du coup on va vivre entre guerriers pendant 2 semaines ensemble, là, ça va être formidable.
Je ne t'envie pas encore, on ne sait pas ce qui va se passer ici dans les jours à venir. Et on a de l'autre côté de l'Europe, et enfin non, même plus vraiment, Thomas Bideau qui est là, analyste à succès de l'industrie du jeu vidéo. Comment ça va ?
Écoute, ça va bien. J'ai une petite voix, donc je vais boire de l'eau pendant qu'on discute, parce que j'ai beaucoup discuté pendant cette semaine. Je suis allé dans des studios où il y avait plein de gens, j'ai pas eu peur.
Oh là là, mais toi aussi t'es un warrior en fait. Voilà.
Je suis en Angleterre, donc on a 2 semaines de décalage avec la France, donc ça nous rattrapera évidemment.
Donc oui, je crois que là, il est clair que ça va être à peu près partout. Donc ce qu'il faut faire, c'est rester chez soi, se laver les mains et ne pas se toucher le visage, on le sait bien. Mais donc, j'ai promis qu'on n'en parlerait pas trop. Avant de me lancer dans Warzone, je vais quand même remercier les gens qui soutiennent l'émission et qui permettent à l'émission d'exister. Aujourd'hui, c'est Baptiste Nicolas, François, Augustin, Augustin Abric plutôt, Max, Willy Picard, Marilouba, Franck Yaropoli, Alexis Kovalenko, Dinendal et Docha. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutenaient l'émission. On vous en dira un petit peu plus en milieu d'émission. Et j'ajoute que si vous soutenez l'émission, vous allez avoir droit à un petit contenu bonus en fin d'émission sur si vous avez le flux privé de l'émission par Patreon. Eh ben, je vais couvrir les quelques sujets qu'on n'aura pas eu le temps de couvrir dans l'émission elle-même. Je serai tout seul, ça sera juste vous et moi pour parler de ces quelques sujets supplémentaires. Il y a toujours des trucs qu'on n'a pas le temps de couvrir dans l'émission normale depuis la nuit des temps. Et ben là, je me suis dit, ça serait un petit contenu bonus sympa, une émission étendue. Donc, si vous soutenez l'émission, vous y avez droit dans le flux privé de l'émission. Et merci à tous. Et donc, comme je le disais, on commence avec quelque chose de plutôt cool. C'est l'arrivée surprise de Call of Duty Warzone, le nouveau Battle Royale de Activision Blizzard. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'y jouer ou pas du tout ? Jika, toi, t'es un warrior du jeu vidéo, donc tu t'es jeté dessus, non ?
Alors écoute, je l'ai lancé effectivement le jour de la sortie parce que j'étais curieux, puisque moi j'avais vraiment bien aimé Modern Warfare. Le Battle Royale, c'est pas trop mon délire, mais bon, là j'étais très curieux. Donc j'y ai un petit peu joué, pas beaucoup. parce que entre-temps j'ai eu accès à un jeu qui va sortir la semaine prochaine dont je ne peux pas parler. Je suis passé à autre chose, on va dire, mais j'ai eu l'occasion de faire quelques parties voilà.
Pareil, moi j'ai pas mal joué en fait. Alors avant de donner nos petites impressions, peut-être un rapide rappel de ce qui s'est passé. On a commencé à voir des leaks sur un événement avec des influenceurs qui aurait eu lieu le week-end dernier, qui a précédé l'annonce et la sortie du mode slash jeu free-to-play dans la foulée. Alors clairement, Activision a retenu les leçons du lancement de Apex Legends l'année dernière et les a reproduites avec pas mal de succès. Ils ont donc mis un embargo à l'information jusqu'au jour de la sortie, ou plutôt jusqu'au jour de l'annonce. Il y a eu 24 heures de décalage. Et le jeu, c'est quoi? C'est un Call of Duty Battle Royale qui est complètement free-to-play, qui est en fait un des modes de Modern Warfare, mais ce mode-là est free-to-play. Donc, on peut tout à fait le télécharger et y jouer gratuitement. Et c'est un Battle Royale qui est relativement classique, qui continue la trajectoire initiée par le mode Battle Royale de c'était Black Ops 4 l'année dernière, et qui amène quelques petites améliorations, quelques petits changements. Mais dans l'ensemble, ce qui importe, c'est qu'il est free-to-play. Et puis, c'est le gameplay absolument solide de Call of Duty qui est amené dans le mode Battle Royale. Et pour les gens qui aiment bien ce gameplay, ils sont très nombreux, c'est un truc hyper nerveux, hyper arcade, hyper efficace. Je crois que le terme le plus approprié pour décrire ce gameplay et Call of Duty en général, c'est efficace. Ça marche, c'est simple, c'est jouissif et ça fonctionne. Et depuis des années et des années que Call of Duty existe, avec des hauts et des bas, ça s'est quand même relativement peu démenti. Ce qu'on peut lui reprocher généralement, c'est peut-être un peu de monotonie. Mais justement, est-ce que le mode Battle Royale n'amène pas un renouveau sympathique dans le cadre du Modern Warfare plutôt réussi de l'année dernière? Pour moi, en tout cas, la réponse est oui. Il y a plein de choses spécifiques à ce mode qui sont vraiment sympa. D'une part, il n'y a pas tous les attachements des armes qui font qu'on passe parfois un petit peu plus de temps à regarder les menus pour être sûr d'avoir de pas oublier quoi que ce soit que de tirer dans le tas. Il y a le mode quand on meurt, on est envoyé au goulag où il faut gagner un combat un contre un, et si on gagne, on peut être redéployé sur la carte avec son équipe. Il y a le mode de ping de communication qui est très largement inspiré du génie d'Apex Legends et de Respawn Entertainment, qui est très efficace aussi. Enfin, l'un dans l'autre, et au final, je trouve que c'est une réussite éclatante, peut-être. Le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, c'est une réussite très, très franche. Et le jeu est sympa, et même moi qui ne suis pas hyper fan des Battle Royale en général, j'y prends beaucoup de plaisir. Je ne sais pas si ça correspond à ton expérience, JK, mais franchement, ça fonctionne bien, quoi.
Ouais, effectivement, ça fonctionne très bien. L'année dernière, dans mon souvenir, le Battle Royale de Black Ops, il était pas mal, on va dire, mais il était assez classique, en fait. On sentait qu'il tâtonnait un corps, et voilà. Entre-temps, il y a Apex qui est sorti, qui a apporté pas mal d'innovations, qui ont été en partie reprises par ce Warzone, ce qui va plus mal. Mais c'est vrai que les ajouts propres, alors déjà, effectivement, tu l'as dit, mais le feeling Call of Duty, il est vraiment extrêmement agréable, c'est toujours aussi fun, efficace, etc. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment le système de contrat, par exemple, je trouve, est très cool, parce que tu l'as peut-être dit, mais en gros, tu récupères un contrat et tu dois aller, tu as un temps limité pour abattre un joueur en particulier avec ton escouade. Et du coup, ça donne vraiment un objectif en plus du simple truc, courir jusqu'à ce que la zone soit restreinte et buter tout le monde, quoi. Et donc ça, je trouve que ça rajoute énormément de rythme au jeu.
Ouais, il y a différents types de contrats, mais l'un d'entre eux, effectivement, c'est de voir... On voit la personne qu'on doit tuer, on le voit sur la carte, et il y a d'autres contrats.
Ouais, j'ai assez joué pour voir beaucoup, pour voir beaucoup de contrats différents, mais je trouve que ça apporte vraiment une variété, en fait. Ce qui manque aux autres modes Battle Royale. La carte est vraiment grande.
Elle est immense. On peut s'arrêter là-dessus une seconde. Elle est immense. Peut-être qu'elle est aussi grande dans PUBG, qui est un Battle Royale très réaliste. Mais
le classique, quoi.
Ouais, voilà, c'est le grand-père. Mais je m'en souviens pas très bien. Et puis, j'appréciais pas pour d'autres raisons PUBG. Mais là, elle est tellement immense, la carte. Et hyper. Comment dire, c'est, t'as vraiment l'impression que chaque petit carré de la carte est un monde entier à lui tout seul. Et il y en a plein. Il y a plein de zones.
Elle est très variée. Il y a aussi beaucoup de verticalité, beaucoup de bâtiments où tu montes, tu descends. Tu sens vraiment, ils ont pensé le level design en fait de cette open world, enfin de cette open world, de cette carte très très grande qui est presque un open world au final. Et du coup, ça marche vraiment très bien. Très très cool. Je te dis, moi j'ai pas pu m'y mettre suffisamment, mais
non, bah il vient de sortir, vraiment, hein, je pense que personne, mais
c'est une excellente initiative de l'avoir mis free to play, parce qu'en plus c'est une très bonne promotion, c'est un très bon outil de promotion pour le jeu complet, pour Modern Warfare, qui en plus vaut le coup, donc c'est une bonne idée.
On se demandait un petit peu comment ils allaient gérer le Battle Royale d'une année sur l'autre. Bah, la réponse, c'est peut-être d'en faire un par an. C'est pas impossible. Et puis, c'est peut-être simplement de garder celui-là en free-to-play sur une ou deux années. On sait pas. Mais là, ils montrent que même s'ils en font un différent par an, bah, pourquoi pas. C'est tout à fait viable. Je me demande aussi si c'est pas... Le Battle Royale, c'est un petit peu bête de dire ça parce qu'ils sont déjà méga populaires, mais le Battle Royale, pour les gens qui n'aiment pas les Battle Royale, Apex a déjà fait une partie de ça, Fortnite, c'est un peu particulier, mais Apex a une certaine complexité, je trouve, qu'on ne retrouve pas ici, c'est beaucoup plus arcade. Je me demande si ce n'est pas le Battle Royale qui plaira aux gens... qui n'ont pas été accrochés par le truc déjà, il y en a quand même quelques-uns. Mais... Thomas, toi, je ne sais pas si tu as... été attiré par le jeu lui-même, t'as peut-être été un petit peu occupé comme tu nous le disais, mais c'est une décision assez attendue de la part d'Activision Blizzard de se lancer dans cette arène du free-to-play en Battle Royale, mais ce qu'on n'attendait peut-être pas, c'est la réussite de l'exécution, mais c'était peut-être attendu comme move, quoi.
Alors moi j'ai effectivement pas pu jouer au jeu, j'ai pas eu le temps. Ce qui est intéressant, c'est la popularité, comme tu disais, ils ont eu beaucoup, beaucoup de succès à leur lancement. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'ils ont pris beaucoup d'inspiration dans le gameplay, dans les mécaniques, mais aussi dans le marketing, à savoir le drop surprise, c'est le modèle qu'avait Apex Legends. Quoi.
Tout à fait, ouais, Apex, l'année dernière.
Nulle part, et voilà. Avec. Quand même, cette petite. Je tiens à soulever, donc ils ont annoncé 6 millions de joueurs en 24 heures, ce qui est deux fois plus qu'Apex Legends. Avec cette petite particularité, quand même, qu'on accède à Call of Duty Warzone depuis le client Call of Duty normal. Donc, du coup, ils avaient une petite longueur d'avance. Je trouve que c'est un petit peu malhonnête de les comparer. C'est énorme, hein, ce qu'ils ont fait. C'est très, très bien. Mais une petite malhonnêteté dans la façon dont les gens veulent comparer des choses qui sont un peu difficilement comparables.
Est-ce qu'on a des chiffres de vente de Modern Warfare? Oui, parce que pour ceux qui ne comprennent pas, en fait, ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est un mode du truc, c'était hyper complexe. En fait, soit on a déjà Modern Warfare et dans ce cas-là, on télécharge la mise à jour Warzone qui fait 15-20 gigas, donc une broutille, et on peut jouer à ce mode. Le mode, en fait, était déjà existant parmi les différents modes de Modern Warfare. Il était déjà là, mais obscurci. C'était genre, je ne sais plus comment ils disaient ça, mais transmission en cours ou un truc du genre. Et donc, le jour où il a été disponible dans Modern Warfare, on pouvait le télécharger et l'avoir directement. Pour tous les autres qui n'avaient pas Modern Warfare, on télécharge Warzone, qui est en fait un bout du client Modern Warfare. Donc, c'est comme ça que ça marche. Et il y a du crossplay sur PC, Xbox et PS4. Donc, ça, c'est assez bien établi également. Mais oui, on sait combien ils ont vendu de Call of Duty Modern Warfare pour savoir si ça leur donne vraiment une longueur d'avance ou...
Non.
D'accord, ils disent pas.
C'est toujours un peu compliqué d'avoir ces chiffres.
Ouais, non, je crois qu'il me semble que historiquement, ils aiment bien faire des communiqués du style c'est le meilleur lancement d'un Call of Duty,
machin. Dans les 14 premières heures, voilà. Pour bien choisir le chiffre qui correspond.
C'est ça, souvent Activision, ils te disent ça a généré X milliards de dollars de revenus, tu vois, mais on connaît pas les
d'où
chiffres.
D'où vient, ouais, tu sais pas.
Je crois que sur le dernier, ils avaient communiqué parce que. dans mon souvenir, Black Ops 4 et World War 2, donc les deux précédents, avaient un peu contre-performé. Ils avaient un petit peu déçu en termes de vente. Je crois que celui-là marche marche beaucoup mieux, en tout cas.
Voilà. D'accord.
Il a très bien marché. Et ce que tu disais sur l'accessibilité du jeu, je pense que plus qu'un Battle Royale pour les gens qui n'aiment pas les Battle Royale, je pense qu'ils ont fait un Battle Royale pour les gens qui ne jouent qu'un seul jeu dans leur vie, qui est Call of Duty, qui est quand même une proportion. Enfin, j'imagine que c'est ça. Et je suis pas sûr que
ils avaient déjà le mode du Battle Royale dans Black Ops 4. Donc, si c'est pour les gens qui jouent que à Call of Duty, c'était déjà le cas l'année dernière, non?
Oui, mais avec la majorité du free-to-play qui te fait revenir, peut-être. Je ne sais pas.
Ouais.
Je pense qu'ils connaissent très bien leurs audiences, tu vois, en termes de gunplay, d'accessibilité plus que de complexité sur où choisir la complexité, parce que les jeux sont pas simples, hein, mais
Non, mais à vrai dire, je pense que t'as pas si tort que ça, parce que il se trouve que moi, j'avais acheté Modern Warfare, et donc je l'avais déjà, mais je l'avais acheté un petit peu par, on va dire, contrainte professionnelle. Je suis plus super fan des Call of Duty, mais ce qui est certain, c'est que par amour de Call of Duty, du gunplay de Call of Duty, même si j'avais pas eu Modern Warfare, je me serais jeté sur Warzone pour voir ce que ça donne. Donc oui, cette idée de cibler les gens qui sont fans de Call of Duty à la base et de ce type de gameplay, c'est... Bon, je pense que c'est un petit peu de tout ça en même temps, quoi. Ouais, donc bon, en tout cas, je pense que c'est une réussite franche et un truc sur lequel il n'y a pas énormément de choses à redire. Je mentionnerai juste que, enthousiasmé par le plaisir que j'ai tiré de jouer à Warzone, j'ai téléchargé Call of Duty Mobile pour voir un petit peu ce que ça donnait. C'est marrant parce qu'il y a un petit peu toutes les cases qui sont cochées. C'est pas mal, c'est bien foutu. Mais bon, au final, c'est quand même pas la folie de la joie du jeu non plus, quoi. C'est un bon truc pour un mobile, j'ai l'impression. Donc,
ouais, puis c'est toujours la complicité de faire un FPS, déjà, de toute façon, en tactile, même si ça marche plutôt bien.
Moi, j'ai connecté ma manette. J'ai connecté ma manette.
Oui, c'est vrai que tu peux jouer à la manette, ouais.
Ouais, et il y a plein de tout... C'est comment dire ? C'est un petit peu une photocopie du gameplay. C'est une photocopie genre des années 90, tu vois, où ça bave un peu, où tu dis ouais, c'est une bonne copie. Tu sens, j'ai l'impression que là ils ont filé le truc à Tencent et qu'ils ont dit bah allez-y, faites-le, vous savez ce que ça donne.
Ils savent faire des free to play, voilà.
Ouais. Bon, la deuxième... Ah, je voulais aussi ajouter le fait qu'il y a un Tamagotchi dans Modern Warfare, et vous pouvez avoir une montre avec un truc genre Tamagotchi, c'est pas la vraie marque Tamagotchi, ça s'appelle le Tomogunchi dans Modern Warfare. La promo est hyper marrante, et franchement, quand on dit que les développeurs de Call of Duty, c'est que des brodoudes sérieux, bon, c'est peut-être vrai aussi, mais quand on dit qu'ils ont pas d'humour, personne n'a jamais dit qu'ils ont pas d'humour, mais comme ça, je peux le dire, et dire que, bah, si, ils ont de l'humour, parce que ce truc Tomogunchi des années 90, c'était très très drôle. Et c'est un vrai produit qu'on peut acheter en jeu. Donc, enfin, un vrai produit. Un vrai accessoire pour notre personnage qu'on peut acheter en jeu. Il faut le nourrir et tout, et puis il peut dépérir, il peut évoluer. Bref.
Formidable.
L'autre grosse news, oui, formidable, on sent la sincérité dans la voix de JK. L'autre grosse news qu'on a cette semaine, c'est l'annulation de l'E3, dont vous êtes déjà certainement au courant, donc je ne vais pas en faire des tonnes et des tonnes. Prévu pour juin, il a été annulé il y a quelques jours à peine à cause des préoccupations sur la pandémie du Covid-19, du coronavirus. Il faut noter que... Alors, il y a plusieurs choses à dire. D'une part, pour nous, à mon avis, et vous pourrez me dire si j'ai tort, en fait, ça ne va pas changer grand-chose. Enfin, pour nous, pour moi qui reste ici à la maison et pour la plupart des gens qui suivent le salon depuis la maison et qui ne vont pas sur place, dans l'immédiat, en tout cas, ça ne va pas changer grand-chose parce que les annonces auront lieu quand même. Ils vont faire des sessions de streaming. L'ESA qui gère l'E3 a prévu, enfin est en train de discuter de la possibilité de faire un événement virtuel. Microsoft a déjà annoncé qu'ils allaient faire leur événement en virtuel, leur événement déjà prévu. Ubisoft dit y travailler. Enfin, il est certain qu'ils vont à peu près tous le faire de cette manière, plus ou moins. Donc, dans l'immédiat et pour nous, ça va pas changer grand-chose. Il y a trois choses qui sont intéressantes à discuter. Au-delà de ça, les causes de cette annulation. Est-ce que c'est vraiment le coronavirus ? L'avenir pour l'E3, est-ce que l'E3 va avoir des problèmes suite à ça ? Et la dernière chose à discuter, je crois que c'est, je ne m'en souviens plus, mais ça devait être lié, est-ce que ça va... bon, on parlera des conséquences après. D'abord, j'aimerais bien... Ah oui, si, la troisième chose, c'est au-delà du futur de l'E3, est-ce que cette annulation va avoir des conséquences concrètes pour les gens qui y vont d'habitude, au-delà des annonces qui sont le côté visible de l'E3, il y a un côté invisible qui est l'aspect trade show, l'aspect discussion sur place. Ça pourra peut-être avoir des conséquences. Parlons un petit peu des causes de l'annulation d'abord. Alors, la cause la plus visible, c'est la pandémie. Et évidemment, ce n'est pas une cause qui est négligeable. Mais on sentait depuis des jours, voire des semaines, qu'il y avait un désaccord profond entre les organisateurs et tous ceux qui travaillaient avec eux. On avait vu que Jeff Keighley avait annoncé qu'il ne serait pas présent, alors qu'il y était depuis des années. On a vu un truc qui est passé un petit peu inaperçu, c'est I Am 8-Bit, qui est une société qui fait des disques et des goodies et de la production d'événements. Ils ont fait plein de choses super intéressantes, qui avait été recruté après le départ de Jeff Keighley. Et ils ont annoncé il y a quelques jours qu'ils quittaient le contrat de Creative Directors de l'E3 parce que, alors ce qu'ils disent c'est, je vais vous lire le tweet spécifique. It's with mixed emotions that I Am 8-Bit has decided to resign as creative directors of what was to be an evolutionary E3 2020 floor experience. C'est avec des émotions mixées, bonnes et mauvaises, que I Am 8-Bit a décidé de quitter son poste de directeur créatif de ce qui devait être une expérience de l'E3 évolutionnaire, une expérience sur les stands, enfin sur le floor de l'E3. We've produced hundreds of gaming and community events, and it was a dream to be involved with E3. We wish the organizers the best of luck. Nous avons produit des centaines d'événements communautaires et gaming, et c'était un rêve pour nous de travailler avec l'E3, et nous souhaitons aux organisateurs bonne chance. C'est un peu passif-agressif comme truc. Et à la lumière du PowerPoint leaké de septembre dernier, où on voyait l'E3 qui proposait de réinventer l'expérience avec des expériences exclusives qui créeraient un buzz et une fear of missing out, une peur de manquer l'action avec des influenceurs et des célébrités, qui était une sorte de cauchemar marketing incompréhensible, de Q-tainment, pas d'entertainment, mais on ferait la queue et ça serait de l'entertainment pendant la queue parce que c'est une expérience d'activation des influenceurs du machin. C'était horrible. Avec tout ça, on se dit... Est-ce que cette pandémie n'est pas la très bonne excuse pour annuler le truc, reprendre un peu de temps pour y réfléchir, et puis parce que les choses n'allaient pas, quoi. Et là, bon, analyste émérite, ou pas émérite, mais analyste expert, Thomas, qu'est-ce que tu penses de cette décision, toi ? Grande inspiration, c'est bien.
Alors, les enjeux sont tels... sur un événement de cette taille-là, je pense que c'est quand même le virus qui a mené ça. Surtout quand on voit les sociétés membres de l'ESA. Donc voilà, l'organisateur de l'E3, c'est pas juste c'est pas une société organisatrice d'événements, c'est un trade body,
c'est un organe de l'industrie, voilà. Dont font partie toutes les sociétés, Sony, Microsoft, Nintendo.
Avec des sociétés Activision, qui sont membres, etc., qui dirige les décisions. Et quand on voit que dans l'État de Washington, la plupart des grosses sociétés, dont Microsoft, demandent aux gens de travailler depuis la maison, c'est difficile de penser qu'eux soient derrière une décision de maintenir l'événement. Je précise ça parce que c'est important pour comprendre le processus décisionnaire de tous les événements qui sont annulés, parce que c'est pas le seul événement qui est annulé. La GDC aussi a été annulée. La GDC, c'est une société qui gère ça. Donc, c'est, ils ont des contraintes financières qui ne sont pas les mêmes, qui sont beaucoup plus importantes. Donc, je pense que c'est surtout ça. Je peux voir la lecture du tweet de I Am 8-Bit aussi, eux en mode, non, mais on veut pas faire un événement quand on pense que le maintenir, c'est mauvais pour la communauté, parce qu'il y a un virus qui traîne. Au-delà de ça...
C'est vraiment comme ça que tu le lis, ou tu dis on pourrait le lire comme ça? Parce que moi, c'est pas comme ça que je le lis.
On peut le lire comme ça, absolument. D'accord. Je pense qu'il y a d'autres choses derrière. Il y a un autre élément qui est, pour moi, l'ESA, c'est une société, un organisme qui est pas très évolutionnaire, justement, qui est plutôt ancré dans des mauvaises idées. On voit les différentes tentatives de rendre l'E3 plus moderne dès ces, je dirais, 3 ou 4 dernières années. Et à chaque fois, c'était... c'est le mème là avec les kids, tu vois, c'est un peu
How are you doing, fellow kids? Oui, c'est ça.
Exactement.
Tu vois, ça tapait à côté, vraiment... c'était un petit peu malaisant et awkward, quoi.
C'était un peu cringe. Ouais. Et donc, du coup, je peux imaginer qu'il y a aussi ça qui émerge de la relation avec I Am 8-Bit. Mmh. Et je pense que c'est aussi un organisme qui est très difficile dans la collaboration, parce qu'ils ont eux-mêmes ont leurs propres convictions, ils ont un truc qui est établi, ils ont une marque. Puis derrière, ils ont des comptes à rendre à des grosses sociétés qui ont toutes des visions différentes, quoi. Mmh. Un Microsoft, un Sony, enfin. Sony n'était pas à l'E3 cette année, mais...
Non, mais ils font partie de l'ISA. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'Entertainment Software Association qui réunit tous les plus grands acteurs du jeu vidéo aux États-Unis. Donc, évidemment, comme on disait, Microsoft, Nintendo, Sony, tous, ils font partie de l'ISA, et l'ISA ensuite organise l'E3. Donc, il y a une sorte, on sent une sorte de désaccord entre les sociétés qui forment cette association et l'association elle-même. Ce qui est un petit peu bizarre, mais c'est effectivement cette situation dans laquelle on se retrouve.
Ouais. Donc, voilà, moi, c'est un peu ma lecture de cette situation-là. Et c'est intéressant de voir les différentes pressions au sein de l'industrie entre professionnels sur encourager à annuler les événements ou pas, en fonction des dates des événements, de leur ampleur, de s'ils sont des événements publics ou pas, quoi. Et. La GDC qui devait avoir lieu la semaine prochaine a été annulée il y a 2 semaines. L'E3 qui aurait dû avoir lieu en juin, donc 3 mois, se retrouve annulé maintenant. Il y a une accélération des annulations. Et juste très rapidement, là, je regardais avant qu'on commence le podcast et l'enregistrement, dans la demi-heure qui précédait, il y a eu 3 événements qui ont été annulés. EGX Rest décalé à cet été, je pense qu'il sera annulé au final. GX Rest en Angleterre, il y a Digital Dragons en Pologne et Games Week Berlin à Berlin, qui lui aussi a été décalé, mais eux avec des dates spécifiques en octobre. Donc il y a une accélération de la répartition de la pandémie et en réaction une accélération de l'annulation de beaucoup d'événements dans l'industrie. Alors l'E3, c'est gros, donc c'est très visible, mais il n'y a pas que l'E3.
Il n'y a pas que, et donc c'est pas forcément... Je pense quand même qu'il y a peut-être une petite... je ne serais pas surpris, disons, on ne peut pas savoir, mais je ne serais pas surpris si les gens qui sont en charge de cet événement se disent « Bon, bah, on l'a échappé belle, on peut l'annuler en sauvant la face, et on peut se réunir, parce que avant que l'E3 ne disparaisse complètement, il va falloir qu'il se passe des choses, même si on va en reparler dans un instant, mais au moins se réunir et proposer un truc vraiment intelligent et intéressant et vraiment différent pour l'année prochaine. Mais ça, on va y revenir. Entre-temps, la deuxième partie, c'est... Oui, pardon, vas-y.
Je pense que tu les surestimes.
Ah, peut-être, mais bon. Ouais. L'autre partie qui est intéressante, c'est... donc, comme je le disais, pour nous, on va quand même avoir les annonces, on va faire les analyses, on va en parler dans les podcasts, ça ne va pas énormément changer. Mais par contre, pour les gens qui y vont d'habitude, c'est tout ce qui est networking, interview, expérience sur place. Mais au sein de l'industrie, les deals de distribution, les deals de développement, tout ça, c'est beaucoup plus difficile à faire. Oui, on peut mettre en place des rencontres virtuelles par Slack, par Skype, par Zoom, par ce qu'on veut, mais c'est pas la même chose. Et c'est ce que j'ai beaucoup entendu de journalistes de l'industrie ces derniers jours. C'est pas la même chose quand t'es au bar le soir du deuxième jour et que tu tapes sur l'épaule de quelqu'un et qu'il te dit « Ah, c'est vous qui avez développé le truc, salut, moi je m'appelle machin. » Et c'est comme ça, ça fait énormément de la vie de l'industrie qui se développe de cette manière. Est-ce que ça va pas avoir des conséquences moins visibles mais plus importantes sur le moyen long terme? Je sais pas si JK, t'as une vision sur cet aspect-là de ton passif de connaisseur de ce type d'événement, mais...
Bah ouais, enfin moi cette année j'avais pas prévu d'y aller, mais je rappelle que je travaille pour un petit site qui s'appelle jeuxvideo.com et un E3 annulé pour jeuxvideo.com, c'est quand même extrêmement je rappelle que c'est catastrophique mais problématique, parce que ça change complètement pour un site comme jeuxvideo.com ou Gamekult, enfin pour tous les sites de jeux vidéo. Le mois de juin, l'E3, c'est une période charnière de l'activité d'un site, quoi. C'est ultra
ouais important. Mais sur ce point vous aurez quand même les news, moi j'ai pas peur pour ça, il y aura les news, événements
mais la couverture sera complètement différente. Tous les ans, jeuxvideo.com, ils font énormément de duplex, d'émissions en direct, de trucs comme ça, donc là sur place il y aura virtuellement rien. Alors c'est certes peut-être qu'on économise le fait d'envoyer 4 ou 5 ou 6 journalistes sur place, donc ça ok, pourquoi pas, mais en termes de couverture ça modifie énormément les plans des médias d'une manière générale, et puis même les contrats publicitaires qui sont négociés en amont de l'E3 par rapport à l'E3, etc. Tout ça saute, enfin financièrement ça a un vrai impact sur les médias, parce que moi je parle de ce que je connais le mieux, mais c'est problématique. C'est effectivement le 3, on va dire que on sentait que c'était compliqué ces derniers temps, etc. Il y a tout ce que vous avez dit, il y a probablement un peu de ça, mais ça restait quand même un moment important pour le rayonnement médiatique du jeu vidéo, tu vois. Donc le fait que ce soit remplacé certes par des conférences, alors je pense que de toute façon la couverture des médias va rester la meilleure possible. Et ils vont faire avec ce qu'ils auront, donc les conférences virtuelles qu'on va suivre, qu'on va commenter, ce genre de choses. Donc finalement, ok. Mais pour les journalistes qui vont sur place, c'est pas de rencontre avec les développeurs, pas d'interview, pas de possibilité, parce que moi je pense aussi, alors le 3 c'est le cas aussi, à tout plein de petits studios, de petits éditeurs qui comptent sur le 3 pour montrer leur jeu, pour faire parler de leur jeu, même pour signer des contrats, etc. Tout ça saute, enfin voilà, donc c'est quand même très important, quoi. C'est quand même très important le 3, je trouve.
Ouais. Je pense que sur ce point, on est d'accord. Thomas, en un mot, je pense que tu seras de cet avis également. C'est cet aspect pour lequel ça va plus faire souffrir.
Alors, nous, en plus, en tant que consultant et analyste, on y regarde beaucoup les volumes de couverture média. Et à chaque année, je fais un post-blog sur le... Quels ont été les sujets les plus importants, les plus couverts, etc., en termes de volume. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le 3 dans l'année, c'est un événement qui est incomparable à quoi que ce soit d'autre en termes de volume de couverture médiatique pour le jeu vidéo. C'est un ordre de magnitude supérieur à celui du Tokyo Game Show ou de la Gamescom, qui sont les deux autres événements médias, on va dire, qui ont des impacts médias un peu important. C'est vraiment très 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 important, et c'est pas juste concentré autour des conférences, même si une grosse partie du volume se fait sur cette partie-là de l'événement, mais aussi tout le long de la semaine, et puis il y a la semaine qui suit le 3 où les journalistes reviennent et puis font des retranscriptions de leurs impressions, des interviews qu'ils ont faites, etc. Et des semaines avant le 3, parce que les deux semaines avant le 3, il y a beaucoup de seeding, donc de présentation derrière porte fermée près de certains médias pour qu'ils puissent préparer en amont ces choses-là. Donc au niveau médiatique, c'est significatif, et ça va forcément perdre un peu de ça en termes de volume. Je ne vois pas comment c'est possible autrement. Et ce que vous décrivez comme étant important pour l'industrie en termes de rencontres, j'aurais tendance à dire que oui, mais ça sera moins spectaculaire en termes de pertes qu'un événement comme la GDC. C'est-à-dire que pour un Activision, pour un Ubisoft, le 3 est très important parce qu'effectivement, on va avoir tous les distributeurs, on va faire toute la danse du ventre avec plein de gens pour avoir, s'assurer une bonne fin d'année. Mais ça, c'est des gros studios, c'est des grosses structures hein, qui pèsent très lourd dans l'industrie. Mais les petits studios, le volume de petits studios qui est présent à l'E3 et pour qui l'E3 est très important, est beaucoup moins important que la GDC, où là, pour tous ces acteurs-là, y a un volume, on va dire, de discussion qui est beaucoup plus important et qui est un manque dont tout le monde se pose la question. Que veut dire que quelles seront les conséquences de ce manque de la GDC qui n'a pas lieu,
D'accord.
qui est décalé, qui n'aura peut-être pas lieu cet été. Ça, c'est la grande question. Avec le côté aussi, dans les deux événements, le côté, on va dire, moral, à savoir, les gens sont excités à l'idée de montrer leur jeu au monde. Et là, le jeu sur lequel ils bossent, ils n'auront pas eu l'occasion de le montrer au monde comme ils voulaient. Et mine de rien, au niveau des studios, de la motivation, ça va aussi avoir des impacts.
Je suis d'accord, c'est vrai que la GDC en termes de business, de business entre développeurs, c'est encore plus important que le 3, quoi. Donc c'est sûr. Mais disons que le coup sur coup, GDC plus le 3 annulé, ça fait quand même assez mal, quoi.
Ouais, donc ça pourrait avoir même des conséquences sur le développement des jeux. Au-delà de la question de... Là, je dérive un tout petit peu une seconde, mais... Il y a une question qui se pose maintenant sur la sortie des nouvelles consoles. Est-ce que au niveau de la fabrication, ça sera disponible à temps? Le consensus pour le moment est que la production reprend en Chine pour les différentes étapes de la production. Donc au pire, selon ce que j'en comprends, mais qui sait, hein, ça peut changer du jour au lendemain, elles seront disponibles quand même, les nouvelles consoles, peut-être en quantité un peu plus limitée, ce qui risque de faire monter les prix. D'ailleurs, peut-être que Sony se dit qui avait une question sur le prix pourrait se dire, de toute façon, on ne va pas pouvoir en produire assez pour tout le monde, donc on va mettre le prix un tout petit peu plus élevé qu'il aurait été, parce qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Mais bon, là, c'est moi qui spécule sans aucune... base, mais même si elle devait être décalée, la plupart des jeux prévus pour maintenant devraient sortir sur les deux générations de consoles, donc ça, je pense pas que ça aura les jeux continueront à sortir, quoi.
Alors moi j'entends les mêmes choses que toi sur les fabrications, exactement, hein. Par contre, ce que j'entends aussi, c'est on commence à voir des projets qui sont décalés dans le temps. Des productions qui prennent du retard. Alors
c'est dû au fait que les gens doivent travailler de chez eux peut-être moins bien. C'est ça, ouais, d'accord.
C'est ça. Mais ça a un impact aussi sur les sorties des consoles, hein, parce que si t'as pas de jeu fait pour ta nouvelle génération, des system sellers, ou s'ils arrivent plus tard, ça décale aussi d'autant. Donc,
ce que je voulais dire, c'est
je vois pas mal de ça.
Tout à fait. Moi, ce que je disais, pour que les gens comprennent bien, c'est que, a priori, de ce que j'en comprends, si les consoles prochaine génération sont décalées, c'est un petit peu moins grave que ça ne l'aurait été sur d'autres générations, parce que il y a énormément de jeux qui sont rétrocompatibles et qui seront disponibles sur la génération d'aujourd'hui aussi. Mais du coup, effectivement, si les jeux en question qui étaient censés être le fer de lance sur la prochaine génération, la génération est décalée, et donc ils sortent déjà sur la génération d'avant, parce qu'il faut quand même faire rentrer des sous pendant le trimestre, est-ce qu'il reste des choses pour quand la prochaine génération sortira dans 3 ou 6 mois plus tard? Ça, il faut l'alimenter quand même en jeu. Donc là, ça pose une question effectivement à laquelle il est difficile de répondre. Ok, alors ça c'est un petit détour, mais le dernier aspect qu'il est intéressant de discuter, c'est justement l'E3, les développeurs vont être tous forcés de faire leur présentation virtuelle. Est-ce que chez certains, chez lesquels l'inertie poussait les gens à dire il faut aller à l'E3 parce qu'il faut aller à l'E3, c'est comme ça qu'on l'a toujours fait et donc c'est comme ça qu'on va le faire, là ils sont forcés d'essayer autre chose, d'essayer une présentation virtuelle en streaming, et s'ils disent Oh bah en fait, ça marche pas mal. On a été forcé de le faire. On l'aurait jamais fait. On n'aurait jamais pris cette décision parce que dans les grosses boîtes, vous savez comment ça marche. Il vaut mieux ne pas prendre de décision et ne rien changer. Au moins, on risque pas de casser les choses trop violemment. Et là, ils sont forcés, donc ils testent. Ça se passe pas trop mal. Peut-être qu'il y en a une partie qui va se dire, bon, bah, finalement, le 3, pourquoi est-ce qu'on paye 2 millions pour le stand chaque année ? Mm-hmm. On va économiser ses sous, quoi. Ça, est-ce que c'est possible, probable, crédible, certain ?
Moi, je trouve ça très crédible. D'autant que c'est une trend qu'on observait déjà.
Oui, c'est vrai que c'est un renforcement de... Ouais.
Voilà, Sony, Nintendo, Electronic Arts, qui sont tous les trois pas des petits acteurs du milieu, qui étaient déjà en marge, on va dire, un petit peu de l'E3 à un certain niveau, quoi. Différent pour chacun d'entre eux. Donc, je pense que ceux qui étaient un peu en retard, effectivement, qui subissaient cette inertie, vont peut-être se rendre compte que ça coûte beaucoup moins cher. Ça coûte vraiment, vraiment beaucoup moins cher et peut-être que ce budget peut être mis ailleurs. Mmh. Et j'aurais tendance à penser que ça aura un impact sur le 3 2021 de manière certaine. Alors, dans quelle ampleur on verra, parce qu'effectivement, l'industrie a peut-être besoin d'un événement comme le 3, comme on disait tout à l'heure, c'est un tel volume. Il faut voir que le 3, c'est un peu le moment dans l'année où les gens qui ne parlent pas de jeux vidéo parlent de jeux vidéo aussi. Donc ça joue ce rôle.
C'est ce que je dis souvent, et je commençais à me poser la question de savoir si c'était vraiment le cas. Je dis souvent, moi, la raison pour laquelle je pensais que Sony serait à l'E3 de toute façon, il se trouve qu'ils ont décidé de ne pas y aller, c'était qu'effectivement... on a besoin pour le lancement d'une nouvelle console de toucher un public et des médias qui souvent ne parlent pas de ces choses-là ailleurs qu'à l'E3. Bon, il se trouve qu'ils ont suffisamment confiance en leur puissance de communication pour les toucher de toute façon, et je pense qu'ils n'ont pas tout à fait tort. Mais tu confirmes que quand même, l'E3, c'est un moment où les médias généralistes parlent de jeux vidéo, alors, même si ce n'est pas le cas d'habitude, quoi.
Alors, oui, mais... c'est moins clé que ça ne l'était il y a 10 ans, par exemple. Tu vas avoir des choses comme Fortnite, dont les gens vont parler tout le temps. Tu as eu Pokémon Go qui a eu son propre... Donc, il y a une espèce de démocratisation et de libération du sujet qui, à mon avis, c'est aussi pour ça que Sony a cherché à se désengager de ces événements-là. Il y avait une autre raison pour laquelle... Sony s'est désengagé de ces événements-là, c'est que Sony est actuellement sur le marché de la console le leader du marché, il est en tête. Et quand on est en tête et qu'on participe à ces événements-là, on aide la concurrence. C'est-à-dire qu'on est le plus gros, donc on a plus de couverture, on a plus de gens qui parlent de nous, mais on a aussi invité des journalistes qui ne seraient peut-être pas venus s'il n'y avait pas eu le plus gros présent. Et donc du coup, il y a aussi cet aspect-là.
Il y a un effet pervers, voilà. On aide tout le monde, et d'accord, je comprends.
À titre très personnel, je ne suis pas un énorme fan de l'événement E3 lui-même. Pour y être allé plein de fois, il y a plein d'aspects de l'événement qui sont pas à mon goût, on va dire. Mais ça reste un événement qui joue un rôle dans l'écosystème. La nature n'aime pas le vide. Donc même si l'E3, on va dire, devient plus restreint et perd ce rôle-là, il y aura d'autres choses qui émergeront. Donc, je ne suis pas forcément inquiet pour ça. Mais c'est clair que c'est une très bonne question et y a encore un rôle joué par l'E3 à plein de niveaux pour la visibilité du jeu vidéo.
Je crois que la question là sera aussi est-ce que le SA réussit à faire une proposition aux acteurs historique de l'E3 qui les convaincra que vaut mieux y être quand même plutôt que de faire notre truc dans notre coin. Mais bon, ça, on verra. JK, une conclusion sur ce sujet, sur cette question ?
Ouais, moi, je suis mine de rien très curieux de voir ce qui va se passer l'année prochaine, du coup. Parce que, aussi, en termes de timing, l'E3, c'était plutôt, on va dire, une bonne période, parce que le mois de juin, c'était une période où il n'y avait pas d'énormes sorties de jeux en général, où tu avais vraiment cet événement. Après, tu avais la rentrée où les jeux arrivaient, donc ça permettait de communiquer à la fois sur les jeux de la fin de l'année et aussi ouvrir sur éventuellement les consoles ou le matos qui arrivaient à la fin de l'année. Enfin, voilà, donc je pense que, mais imaginons dans l'année prochaine, il n'y a pas 2-3 en tout cas tel qu'on l'a connu. Comme disait Thomas, il y aura sans doute d'autres événements
C'est une période de l'année où il faut quelque chose, quoi, par rapport au calendrier.
Voilà, c'est ça. Et médiatiquement, effectivement, les médias généralistes, par exemple, qui genre le Figaro, le Monde, etc. Est-ce qu'ils vont autant s'intéresser à un E3 qui est 100% virtuel? Je sais pas, tu vois. Le fait qu'ils y aillent souvent, ça permet de couvrir des sujets différents, de rencontrer des gens, parce que les journalistes du Figaro qui vont à l'E3, c'est globalement assez peu pour faire des previews, tu vois. C'est pour rencontrer des gens sur place, pour faire des portraits, des interviews économiques, etc. Et là, effectivement, un événement comme l'E3 était possible, et un E3 virtuel sera beaucoup plus compliqué pour eux, donc voilà. Donc moi 2021, je suis curieux de voir comment ça va évoluer et comment le monde du jeu vidéo et surtout l'univers des salons, parce que là ça touche absolument tous les salons, les salons de jeux vidéo en particulier, va rebondir suite à cette année particulière, quoi.
Bon, donc voilà pour cette grosse partie sur l'E3. On va dire un petit mot avant d'avancer sur les Pégases 2020, donc le fameux, la cérémonie où l'industrie du jeu vidéo français célèbre et fête et prime les jeux produits par l'industrie du pays. Est-ce que vous y étiez à la remise des prix elle-même, vous ?
Non, moi j'étais pas. Je l'ai. Alors, je t'avoue, je l'ai même pas suivi à distance parce que je pouvais pas. Enfin, bref, je sais plus ce que je faisais à ce moment-là.
T'étais occupé. Thomas, toi, t'as suivi ça ?
Moi, j'ai suivi. Comme je suis en Angleterre et que on limite les déplacements en ce moment, je suis pas allé. Mais j'ai suivi la cérémonie.
T'en as pensé quoi alors ? C'est le truc qu'on reproche à ce genre de cérémonie, c'est que c'est un peu consanguin parfois. Et puis ce qu'on peut reprocher au niveau français, c'est que c'est un panel de jeux relativement limité. A Plague Tale a remporté le premier Pégase du jeu, c'est l'un des candidats qu'on pouvait attendre. En même temps, moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est tous les membres de l'industrie. Moi-même, il se trouve que j'ai été accepté dans l'académie, donc j'en fais partie, j'ai voté. Mm-hmm. J'avais joué à genre 2 jeux sur tous les jeux proposés, donc c'était un petit peu compliqué. Mais au moins, le processus me paraît bon parce que c'est comme les Oscars, les Césars, ces trucs-là, c'est tous les gens qui font partie de l'industrie qui vont voter pour les candidats. C'est pas juste un panel de 10 personnes qui vont décider, donc c'est un fonctionnement qui est ça, à mon sens. Mais ouais, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Thomas, de cette première édition ? Alors,
juste pour faire un disclaimer, moi, je les ai aidés professionnellement l'année dernière dans leur communication, donc j'ai un avis qui est aussi biaisé par ça.
Conflit d'intérêt.
Voilà. Mais maintenant que le conflit d'intérêt est annoncé, je peux expliquer ce que je pense. Et je pense que c'est une bonne première édition. C'est-à-dire que pour avoir parlé avec pas mal de gens qui sont impliqués dans l'organisation de l'événement et tous ces trucs-là, c'est un boulot énorme à plein de niveaux. Je parle pas de la cérémonie, je parle même de ça, ce que d'organiser le système de vote, encourager les gens à envoyer leurs jeux parce que tous les jeux ne sont pas immédiatement qualifiés, il faut qu'ils soient soumis, il y a un prix à payer, donc ça inclut un autre filtre, bref. Mais je pense que c'est une bonne chose pour l'industrie d'avoir ce type d'événement avec effectivement l'industrie qui soit derrière et les gens qui travaillent dans l'industrie qui soient derrière, pas juste les sociétés. Et je pense que c'était une bonne première édition. Voilà, il y a plein de petites choses qu'ils vont devoir revoir. Alors je ne suis pas dans le secret des dieux, c'est vraiment qu'un avis. Mais je pense que c'est une bonne base pour construire un événement et peut-être qu'en 2021, ça sera. Encore mieux, et en 2022, on aura une formule qui sera vraiment chouette, quoi. Mais c'est un bon premier jet.
D'accord. Bon, espérons effectivement que la trajectoire suive ce que tu nous décris. Et oui, moi, je pense que l'idée est plutôt bonne. Donc, on verra ce que ça donne. Écoutez, je vais faire une toute petite pause pour encore une fois remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission. Comme vous le savez, l'émission est financée grâce au Patreon, grâce aux Patriotes. Et ce que je dis souvent, c'est que si on apprécie un produit sur Internet, il faut penser à la manière dont il est financé. Et en l'occurrence, on ne peut pas vivre que de la pub, en tout cas quand on fait un podcast indépendant comme le mien. Et dans tous les cas, je crois que ça n'est pas souhaitable. Donc, je vous encourage à soutenir, comme à l'époque, reculer, où vous allez acheter un magazine, peut-être à soutenir l'émission en allant sur patreon.com/rdvjeux. Le lien est dans les notes de l'émission. Et puis, c'est pas très cher, hein. C'est un petit dollar par épisode jusqu'à... Bon, vous pouvez donner plus si vous voulez, mais le minimum est à $1. Et ça fait le prix d'un café, moins que le prix d'un café parfois. Et si vous êtes dans les transports et si vous ne... d'une part, vous pourriez le faire maintenant. Et d'autre part, si vous ne pouvez pas le faire maintenant, bah, quand vous rentrez chez vous et que vous posez les clés dans le bol à l'entrée, repensez à Patrick et dites-vous « Ah ouais, maintenant je vais aller sur patreon.com/rdvjeux. » Comme ça, vous n'oubliez pas. Surtout si vous êtes en voiture, en fait, vous pouvez pas lancer le site tout de suite parce que même si vous êtes dans les transports en commun, ça prend 2 minutes. Mais en même temps, beaucoup d'entre vous ne sont ni dans les voitures, ni dans les transports parce que vous êtes confinés chez vous. Alors, dites à votre enfant de s'occuper tout seul pendant 10 minutes. Vous lui mettez une petite série sur l'iPad et vous êtes tranquille pour avoir le temps de soutenir l'émission. Oubliez Warzone, la démo de Final Fantasy VII, tout ça, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'aller sur patreon.com/rdvjeux, n'est-ce pas ? Bon, merci en tout cas à tous ceux qui soutiennent et à ceux d'entre vous qui feront le geste.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Et donc, on continue avec nos news et nos rumeurs, et puis peut-être nos petits tests. J'évoquais Final Fantasy VII démo, elle est disponible depuis une petite semaine. Franchement, j'ai été hyper, hyper agréablement surpris de cette démo. Je commençais à me dire que le jeu, ça sentait quand même assez bon au fur et à mesure des présentations. Là, en ayant mis les mains dessus, d'une part, l'effet nostalgie fonctionne à fond. La musique, je me demandais presque si la musique était celle de l'original, parce qu'il était sur CD, l'original, donc je me suis dit, la musique... Non. On sentait bien l'influence du 16 bits encore à l'époque. C'était quand même très particulier, hein, la musique de l'époque. Là, c'est une réimagination de tout qui sublime le tout. Et le système de combat est dynamique et intéressant. J'ai été vraiment conquis par la démo et par Final Fantasy VII. Il y a la question quand même de la durée du jeu, ou plutôt du cadre, parce que c'est uniquement sur la première partie du jeu original dans la ville de Midgar. Et il dure 40 heures, je crois, d'après ce qu'ils ont dit. Donc, est-ce qu'il va y avoir du remplissage ? C'est possible. Mais en tout cas, le premier contact est plutôt, plutôt bon, j'ai trouvé. Et j'étais pas convaincu à la base. Je sais pas si vous avez mis les mains sur cette démo, vous.
Non.
Pas du tout. Moi non plus, j'y ai pas joué. C'est pas un jeu que j'attends plus que ça parce que j'ai pas d'affect particulier pour Final Fantasy VII. Hein. J'y ai pas joué à l'époque. Ceci étant dit, je trouve que le travail de réinterprétation et de refonte du jeu a l'air effectivement très intéressant. Moi, le système de combat me plaît bien de ce que j'en ai vu. Ce côté un petit peu inspiré de Final Fantasy XV avec du temps réel et tout ça, c'est assez nerveux, c'est cool.
Donc, pour ceux qui n'ont pas vu les détails sur ce système de combat, en fait, on a un système... le jeu de l'époque était au tour par tour, JRPG classique, tour par tour. Là, on a l'option de faire au tour par tour si on le souhaite, on peut tout à fait faire ça, mais il y a aussi un système de jeu... beaucoup plus dynamique où on dirige un personnage, un des personnages de l'équipe, et on va avec de l'action appuyer sur un bouton pour faire des attaques, et on a tout un tas de systèmes qui s'ajoutent à ça. Il y a différents types d'attaques, mais surtout au fur et à mesure du temps et de notre action, eh ben on va remplir des barres de ATB, Active Time Battle, et quand la barre est pleine, on peut l'utiliser, on peut en utiliser une, deux ou trois en fonction des persos et des attaques, on peut l'utiliser pour faire des choses, une capacité spéciale, un sort, l'utilisation d'un objet, et on peut faire ça non seulement pour le personnage qu'on contrôle, mais pour les autres personnages de l'équipe aussi. Et quand on arrive dans cette configuration, on appuie sur le bouton et ça arrête le temps, ou ça le ralentit énormément, mais ça ne l'arrête pas complètement, donc on ne peut pas rester comme ça pendant 10 minutes. Il faut quand même qu'on soit poussé, enfin on est poussé à la décision parce que le temps avance très lentement, mais avance quand même. Et le tout fonctionne ensemble de manière surprenante, franchement. C'est à la fois un jeu d'action et un jeu où il faut prendre des décisions pour faire l'aspect un petit peu RPG. Alors ça devient un petit peu bordélique, j'imagine qu'avec quatre personnages ça devient même très bordélique, mais la première impression, la première prise en main est positive, je trouve. Le doublage est pas mal, et les personnages sont évidemment retravaillés par rapport à ce qu'ils étaient à l'époque. Barrett est quand même souffre des, je trouve, d'un... En japonais, les expressions, la voix est beaucoup plus, comment dire, la discussion, la voix est beaucoup plus expressive, l'intonation joue beaucoup. Et donc quand c'est traduit, on est obligé de surjouer pour atteindre le niveau d'expression du japonais, et ça fonctionne pas toujours bien, en particulier avec Barrett, qui, j'ai l'impression, peut-être que c'est pas ça le problème, mais j'ai l'impression, souffre de l'image stéréotypique qu'ont les Noirs au Japon. Je crois qu'il y a un peu de ça, et c'est pas parfaitement naturel, on va dire, mais c'est un des aspects qui n'est pas rédhibitoire, je trouve, du jeu. Dans l'ensemble, c'est quand même assez réussi. On a aussi vu des choses sur Baldur's Gate 3, Half-Life Alyx et Valorant, qui est le nom officiel du jeu de Riot, le FPS. Sur ces trucs-là, je me dis que JK, il est complètement, il s'est évanoui devant Baldur's Gate 3. Je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est mon impression.
Ouais, quand même. Pour coup, j'ai suivi, moi, il a été révélé en streaming. Il a été révélé donc à la PAX, un rare salon qui n'a pas été annulé par Larian. Donc, je rappelle, Larian, c'est un studio belge qui a fait les notamment Divinity Original Sin 1 et 2, qui sont globalement les meilleurs RPG PC, donc à l'ancienne, de ces dernières années. Clairement. Donc du coup, les voir reprendre Baldur's Gate 3, c'est une très bonne nouvelle.
C'était un petit peu leur inspiration pour faire les Divinity, en fait, Baldur's Gate. Donc
c'est ça, la boucle Divinity, qui se bouffe, c'est inspiré des Baldur's Gate, des Planescape Torment, enfin de tous ces RPG PC de la fin des années 90, Icewind Dale et tout ça. Là, moi, je suis globalement très 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 chaud très 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 hypé par le jeu. Il y a effectivement des petites polémiques sur le fait que le système de combat donc est en pur tour par tour, vraiment très 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 tactique. Donc ce que fait déjà Larian sur les Divinity Original Sin. Il y a pas mal de fans qui sont pas très contents parce que effectivement à l'époque Baldur's Gate, je le rappelle, c'était un système de pause active, donc c'était des combats en temps réel, un peu comme un jeu de stratégie, sauf que tu pouvais mettre pause à tout moment, donner tes ordres, etc., tes sorts et relancer l'action. Je trouve que ce système là a clairement vieilli et vraiment dépassé. Et donc je trouve que revenir sur faire du tour par tour, c'est une bonne chose, surtout que Larian s'est justifié en disant à la base on adapte Donjons et Dragons, donc Donjons et Dragons c'est du jeu de rôle papier, donc c'est du tour par tour et grand meilleur face, et c'est vrai que voilà, après c'est vrai que du coup ça peut donner un petit côté Divinity Original Sin 3 version Donjons et Dragons au jeu. C'est à voir. Ça a l'air très cool. Il y a d'avoir énormément de possibilités. D'après mon collègue chez JVCOM qui a vu le jeu, effectivement, bon, qui a fait une preview, mais il m'a dit vraiment il y a énormément de possibilités. Il y a par exemple des donjons que tu vas découvrir complètement par hasard au détour d'une quête et qui vont t'emmener dans des trucs incroyables, etc. Ouais, donc vraiment, je suis très saucé par le jeu, surtout que là, je suis en train de jouer à Origin Sin 2 sur Switch, et vraiment, c'est vraiment un excellent jeu, quoi. Donc, du coup, je suis beaucoup plus saucé par ça que par Final Fantasy VII, même si Final Fantasy VII a l'air bien, hein, mais bon, par contre, a priori, enfin, c'est même sûr, il va falloir être patient, puisque le jeu va être en accès anticipé dans le courant de l'année. Donc du coup, on aura une version, on pourra y jouer, mais dans une version pas complète. Et il va rester en early access, en accès anticipé, pendant plusieurs mois, voire années, je ne sais pas. Mais en tout cas, il ne faudra clairement pas s'attendre à avoir le jeu final complet avant un an, quoi.
Au moins 2021, voire plus. C'est vrai que sur ces jeux-là, où il y a tellement de possibilités, comme c'est le cas avec les Divinity, c'est difficile à tester, surtout pour une petite équipe. C'est difficile à tester de manière convaincante et suffisante avec l'équipe elle-même. Tu peux avoir autant de QA que tu veux. Il faut les joueurs pour faire remonter toutes les possibilités, quoi.
Ils avaient déjà fait ça pour leur précédent jeu, et c'est vrai que ça leur permet de faire un truc sain. Alors, le truc, c'est qu'historiquement, l'Ariane, quand ils sortent leur jeu en version complète, notamment en Resident Evil 1 et 2, c'est des jeux qui sont qui manquent de polish, il y a pas mal de bugs, etc. J'espère que pour Baldur's Gate 3, ce sera plus propre. Mais justement, je pense que cette phase early access va permettre de sortir un jeu final propre. Après, reste à voir si moi j'attends la version finale du jeu ou si je me mets dessus en early access. Ça va dépendre de ce qui sort.
Bon, Valorant, on n'a pas grand chose à en dire. C'est confirmé. Il est confirmé que ça sera vraiment très très orienté Counter-Strike. Donc le gameplay est, d'après les premières impressions, quasiment copié du gameplay de Counter-Strike. Il y a également, comme je le disais, Half-Life Alyx. On a eu droit à 10 minutes de démo. Et le truc intéressant, c'est qu'on peut, c'est en réalité virtuelle et on peut interagir avec l'environnement de manière assez impressionnante. On peut vraiment attraper tout ce qu'il y a dans l'environnement et le manipuler. À voir si le fait de devoir se déplacer comme on doit se déplacer dans un univers de réalité virtuelle qui supporte tous les modes de déplacement classiques de la réalité virtuelle, la téléportation, le déplacement avec mouvement, etc. Je me demande si ça va fonctionner en mode FPS, mais Valve, j'imagine, savent ce qu'ils font. Donc, c'est, comment dire, intéressant. Je crois que c'est comme ça que je le définirais.
Ouais, moi je suis très curieux, j'ai très hâte d'y jouer. J'ai juste effectivement des craintes par rapport à ça, par rapport au déplacement, mais en termes d'immersion, par rapport à la physique du jeu, t'as l'impression vraiment que, on va voir ce que ça donnera en jeu, mais qu'on peut vraiment sentir l'univers, quoi. Je sais pas comment l'expliquer, mais il y a vraiment tout un tas et Valve, notamment depuis Half-Life 2, ils sont quand même très forts là-dessus avec leur moteur physique pour donner l'impression de réel, quoi, de poids, les objets qui ont du poids, etc., et avoir des vraies interactions en jeu. Du coup, et puis ça a l'air flippant, hein. Putain, il y a vraiment des moments dans la démo où tu te dis à jouer à ça en VR, ça va être terrible, quoi. Donc voilà,
dans le mais bon
ouais,
sens
ouais
du
moi
terme.
je suis très 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 intéressé par le jeu, quoi.
Quelques news supplémentaires. Il semblerait qu'il y ait un nouveau jeu Star Wars qui a été leaké par le PlayStation Network. Comment il s'appelle ? C'est Maverick, Project Maverick, qui est arrivé sur le PSN européen. Alors, comment il serait arrivé sur le PSN européen ? Est-ce que c'est une démo qui est en préparation ou un truc comme ça ? On ne sait pas, parce que je ne pense pas qu'il va sortir tout de suite, sinon il l'aurait annoncé, mais une rumeur, CD Projekt Red travaille un nouveau jeu The Witcher, mais ça ne sera pas au The Witcher 4. Alors, nouveau jeu The Witcher, c'est un petit peu, comme je le commentais sur les réseaux sociaux, la surprise est totale. Comment est-ce que CD Projekt Red fait un nouveau jeu Witcher ? Quoi ? Mais ils disent que ça sera... Donc, est-ce que ça ne sera pas un jeu avec Geralt ou... Bon, bref, à voir. Et Horizon Zero Dawn arrive sur PC cet été. On a aussi une date pour Ghost of Tsushima sur PS4, c'est le 26 juin ou le 24 juin. Donc c'est vraiment le début de l'été. Mais Horizon Zero Dawn, qui est, comme on le rappelle, une exclusivité PlayStation produite par Sony, J'allais dire Santa Monica, Guerilla, c'est pas Santa Monica. Voilà, Guerilla, merci. Santa Monica, c'est God of War. Et donc, il arrive sur PC. C'est un changement d'orientation assez significatif pour Sony, qui gardait ses exclusivités de manière un petit peu jalouse jusqu'à maintenant. Moi, je pense que ça aurait pu annoncer, donner lieu à l'annonce d'un deuxième épisode. Et du coup, le premier est porté sur PC. Ça fait des ventes en plus et de la pub pour le deuxième, qui lui serait une exclue, bah pour le coup peut-être temporaire, pour la PlayStation nouvelle version, possiblement, on ne sait pas très bien, mais ce qui est sûr, c'est que Sony change un petit peu d'orientation. Il rentre dans la danse de ceux qui ont compris qu'on peut avoir un truc exclusif un moment et puis faire plus d'argent avec, en le rendant plus accessible ensuite, parce que de toute façon, les gens qui l'ont pas acheté pendant 3 ans sur PlayStation, c'est pas que demain ils vont se dire ah bah finalement je vais l'acheter sur PlayStation alors que je le voulais pas jusqu'à maintenant. Donc on donne l'opportunité à un autre public de vous donner de l'argent.
Ouais, c'est
ce qui
ça.
Est plutôt
et,
une bonne chose.
Et puis ça va peut-être lui donner une seconde. Alors, il a fini par bien se vendre, mais il faut quand même rappeler que le pauvre, il n'a pas eu de chance. Il est sorti 2 ou 3 jours avant Breath of the Wild. Du coup, tout le monde a oublié Horizon Zero Dawn en quelques jours parce que bah, l'attention était accaparée sur Zelda Breath of the Wild. Et alors que
il a quand même fini par faire du bruit au bout d'un moment, et je crois qu'il s'est bien vendu.
Il s'est taillé une place.
Ouais, mais c'est vrai qu'au moment, je me souviens, la semaine de la sortie, il est rapidement, on a pu entendre parler. Et par contre, la version PC, a priori, en plus, va y avoir des features spéciales PC, donc c'est ça qui est cool. On va pouvoir y jouer notamment en 21:9, j'ai vu. Donc ça va être un très beau format. J'imagine qu'une bonne carte graphique pourra le faire tourner en 4K. Donc le jeu était déjà super beau sur console. Sur PC, vraiment, moi, pour le coup, je l'ai pas fait à cette époque-là. Enfin, j'y avais joué peut-être une heure à l'époque, et je pense que je vais me mettre dessus sur PC, parce que ça m'attire beaucoup.
Très bon choix. Google a annoncé qu'ils ouvraient un deuxième studio de développement exclusif. C'est un pour Stadia, évidemment. C'est à la fois une bonne chose et puis en même temps un petit peu surprenant qu'ils s'y mettent que maintenant. Peut-être qu'ils se rendent compte que les développeurs qu'ils voulaient attirer sur leur plateforme n'y viennent pas, et donc ils se disent bah, il faut qu'on le fasse nous-mêmes. Mais il faut qu'on le fasse nous-mêmes. Un jeu, ça prend au minimum 2 ans à développer. Donc bon. j'entends Thomas réagir, ouais, dis-nous.
Non, mais c'est leur deuxième studio, parce qu'ils ont déjà un studio bien à Montréal avec Jed Raymond, et ils savent qu'ils ont besoin de gens pour faire du contenu exclusif. Ils sont peut-être besoin du talent local plus que de tout ça. Et s'ils voulaient avoir plus d'exclusivité, ils pourraient trouver des exclusivités en faisant ce que font d'autres, à savoir en
sortir
mettant un gros
chèque. Portefeuille, ouais.
Voilà. Et le fait est que c'est peu le cas, on va dire. Il y a peu de jeux qui sont en exclusivité Stadia ou qui font des deals avec Stadia. J'ai l'impression, surtout au vu de la performance de Stadia à son lancement, que Google n'a pas l'air très pressé. Ils ont l'air de vouloir prendre leur temps.
C'est effectivement pas comment dire. C'est ça correspond à l'impression qu'on a eue jusqu'à maintenant. Bon, on est encore en bêta. Et d'ailleurs, Doom ne sera pas en 4K sur Stadia. Il sera en un peu moins de 4K up-raisé. Doom Eternal, qui était l'un des gros morceaux. Donc, ils continuent à ne pas tenir leurs promesses.
C'était déjà le cas de Destiny 2, hein, qui était le scare. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de 4K native hein, pour le moment sur Stadia.
Ah, bah, il pourrait.
Il n'y a aucun jeu en 4K native sur Stadia. Et c'est l'upscale. Enfin, c'est au mieux de l'upscale, quoi.
Bon, en même temps, Doom Eternal, il semblerait que ça soit, je crois, du 1800 plutôt que du 2000 et des brouettes. Donc, c'est plus que de la Full HD praisée. Mais... tiens, puisqu'on parle de streaming, GeForce Now perd encore des jeux, 2K Games, et il y en a eu plusieurs autres. Donc,
il y a eu Bethesda et Activision.
Ouais. Oui, donc, ça, c'était les semaines précédentes. Ouais. Donc, bon, ça continue, on en a déjà parlé. Thomas, tu as peut-être un éclairage
Je pense que c'est des gens. Moi, je trouve ça intéressant parce que du coup, je suis assez sceptique sur le cloud au niveau modèle, et notamment ceux qui passent par l'abonnement. Je trouve que le modèle GeForce Now, c'est le modèle qui me plaît le plus parce qu'on joue à des jeux qu'on a déjà achetés. Et je pense que tous les gens qui se positionnent effectivement pour retirer leurs jeux, c'est des gens qui en sont en négociation pour ce gros chèque de Google dont on parlait, quoi. Et que c'est plus ça qui le motive que des disputes sur les copyright, le licensing, parce qu'ils viennent pas voir les gens de Shadow pour leur enlever les jeux, hein, donc voilà.
Non, mais Shadow c'est plus compliqué. Shadow c'est un vrai PC.
Bah, Shadow c'est même impossible parce que Shadow,
c'est ça. C'est comment
un,
tu
c'est
fais
un PC dans le cloud, c'est du cloud computing.
Comment tu mais fais pour retirer Shadow, le jeu du Shadow? Tu peux pas bloquer dans Windows.
GeForce Now, c'est techniquement la même chose.
Non. C'est le sous-tenant si. Est la même chose, mais il y a tout un travail d'interface, de lancement spécifique de chaque jeu. Un jeu n'est pas disponible sur GeForce Now si Nintendo, j'allais dire, si Nvidia n'a pas fait le travail. Alors, c'est un travail sur l'interface, mais il n'empêche, ils ont besoin de faire le travail pour le rendre compatible. Et,
tout à fait.
Donc, c'est pas mais... tout à fait la même chose.
Mais on va dire que d'un point de vue consommateur,
oui.
C'est, je parle du point de vue consommateur, c'est là où d'un point de vue image, c'est assez compliqué à gérer.
Disons, je comprends le consommateur qui ne peut pas comprendre pourquoi un jeu qu'il a acheté sur Steam et auquel il peut jouer sur son PC en local, il ne peut plus y jouer sur GeForce Now.
Ça je suis d'accord.
C'est incompréhensible pour le consommateur.
Je suis d'accord, mais... Vas-y.
Je dis juste les jeux compatibles GeForce Now, c'est vrai qu'Nvidia les installe physiquement sur ses serveurs en fait, parce qu'il n'y a pas de temps d'installation. C'est aussi ça l'avantage d'un GeForce Now, c'est que tu n'as pas besoin de télécharger le jeu. Tu n'as pas besoin de télécharger le jeu sur le serveur, ils sont déjà installés. Donc c'est un peu à la Stadia, c'est un lancement quasi immédiat. Quoi. C'est vraiment très compliqué ce cas de GeForce Now, j'ai l'impression.
Bah, c'est très compliqué, mais surtout la question, la comparaison avec Shadow qu'on fait beaucoup et ce qui est compréhensible, comme tu le disais, JK. Comment concrètement est-ce que tu vas interdire à Shadow de lancer ton jeu ? Si tu es, imagine, je suis Joe Activision et je vais voir Shadow, je vais leur dire « Ah, il faudrait pas qu'on puisse utiliser nos jeux sur votre service. » Tu dis « Mais monsieur, moi c'est un PC, je peux pas... tu vois, comment je vais modifier Windows pour qu'il ne puisse plus lancer le jeu que quelqu'un installe sur Windows ?» C'est pas... À mon avis, c'est...
Non, ça
je suis pas un
probable.
Expert, mais légalement, je crois que c'est beaucoup plus difficile qu'avec GeForce Now.
Non, mais en fait, GeForce Now est vraiment à mi-chemin entre Stadia et
Shadow.
Et Shadow, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, alors que comme beaucoup de personnes, et Thomas l'a dit, c'est probablement le modèle économique et le business qui est... Enfin, le modèle qui est plus intéressant... Mais je trouve que derrière, il y a, ouais, c'est, je suis même, je trouve ça même un peu injuste, en fait, tu vois, pour Nvidia, envers Nvidia qui, et puis pour, encore plus pour les consommateurs et les utilisateurs, quoi. Enfin, c'est pas normal qu'un jeu que t'as déjà acheté, qui était initialement compatible, le soit plus, quoi.
Voilà. Bah. Autant je dirais ça sur Shadow, autant sur GeForce Now, il y a tellement de bidouillage sur l'interface et sur les moyens de le lancer et sur la manière dont tu gères les données, parce que pour la plupart des jeux, les données sont partagées sur des serveurs. C'est un jeu qui est installé une fois pour servir tous les utilisateurs et qui est lancé, d'après ce qu'on comprend, hein, qui est lancé en plusieurs instances pour les différents utilisateurs. C'est à la fois techniquement et pour l'interface, c'est du bidouillage. Et je crois qu'il y a beaucoup plus à redire sur la manière dont Nvidia fait les choses que sur la manière dont Shadow fait les choses. Mais bon, ça serait toute une émission à elle seule. Pardon, Thomas, vas-y.
Ouais. Non, je vais pas passer plus de temps dessus parce que c'est... je pense que le nerf de la guerre, c'est le consommateur. Et ici, ils sont en train de mener la mauvaise guerre, en fait. Parce que les gens qui enlèvent les jeux... sont aussi dans un discours de Nvidia met les jeux alors qu'on veut pas qu'ils les opèrent, alors que Nvidia a fait les choses bien et a obtenu les droits de tous ces jeux-là avant de faire ces bidouillages.
Ah bah non, la preuve, c'est qu'ils n'ont pas les droits.
Ils ont eu les droits et ils les enlèvent.
Pour la démo, non. Ils ont eu les droits, pour. En tout cas, c'est ce qu'on a entendu de Activision. Nvidia a dit, ouais, il y a eu un malentendu, machin. Activision avait dit, pour la démo, ça va, d'après ce qu'on comprend, hein, d'après ce qu'on peut interpréter. Pour la démo, ça va, mais sans, quand vous lancez commercialement... Mais quand vous lancez commercialement, il faudra nous reparler. Et Nvidia ne l'a pas fait. Et je crois que... Bon, je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais c'est bien beau de dire « Oh, Nvidia, ils ont eu les accords et ils font les choses bien, ils font les choses gentiment. » Il est tout aussi crédible, à mon sens, et peut-être que je me trompe, mais il est tout aussi crédible de dire que Nvidia savait très bien que ça ne plairait pas aux éditeurs et qu'ils se sont dit « On va faire du forcing. On sait qu'on n'a pas le droit de lancer le service commercialement avec ces jeux-là, mais on va les lancer quand même. » Et comme ça, les éditeurs seront devant le fait accompli et ils auront le rôle du bad guy s'ils demandent de les retirer et comme ça, nous, on forcera l'adoption. Il est pas du tout impossible que ça soit ça leur calcul aussi, à mon avis. Donc,
Alors, moi, je vois ça plutôt dans l'autre sens, dans le sens où ils ont eu le droit à un moment donné. Ils auraient pu aussi lancer un GeForce Now qui lançait n'importe quel jeu Steam sans demander la permission à qui que ce soit, tu vois. Et être dans un mode extrêmement forcing. Et ça prend du temps d'obtenir les droits de tous ces jeux, même pour la version démo, tu vois. Donc, ils ont quand même fait ce travail-là initialement.
Mais donc, je suis pas d'accord. Ils auraient pas pu lancer un truc qui lance tous les jeux Steam, parce que le cœur du service, justement, c'est que ça adapte l'interface, ça adapte le processus de lancement pour que ça soit transparent, pour que ça soit aussi proche d'un truc comme Stadia que possible. Oui, mais ça veut dire qu'ils doivent, eux, pour chaque jeu, regarder comment il se lance, regarder où il installe ses fichiers, regarder où ils peuvent les mettre sur leur serveur pour pouvoir partager les ressources et les mettre à disposition de chaque utilisateur sans avoir à installer un jeu par utilisateur, ce qui est la solution qui est choisie par Shadow. Et donc, ils font un bidouillage derrière, et s'ils avaient pu installer tous les jeux de Steam, je pense qu'ils l'auraient fait. Là, c'est pas uniquement parce qu'ils se sont dit « Bon, bah, on va être gentil, on va jouer dans les règles » qu'ils ont fait ça. C'est aussi parce que leur système, la manière dont ils ont designé leur système, veut qu'ils adaptent chaque jeu. Donc... Et à côté de ça, j'ajouterais que si un éditeur, encore une fois, disait « Shadow, nous, on ne veut pas que vous lanciez notre jeu, moi, ça me poserait un problème parce que c'est juste un PC. » Nvidia, il change l'expérience utilisateur. Et si un éditeur dit « Je suis désolé, moi, pour ce type de service, je ne veux pas que mon utilisateur ait tel type d'expérience et je veux faire un deal avec Stadia pour être exclusif chez eux ou avoir mon propre service de streaming, peut-être que c'est la mauvaise décision commercialement, j'en sais rien, mais je pense que l'éditeur ne doit pas être dépossédé et le développeur ne doit pas être dépossédé de cette décision. Pour Shadow, c'est un PC, donc s'il décide d'être sur PC, il est sur Shadow parce que le Shadow, c'est un PC. Nvidia, c'est pas un PC, c'est une expérience complètement différente. Donc, je pense que l'argument se défend pour le côté des développeurs.
Il se défend complètement, non. Mais il faut bien voir la motivation. La motivation, ça reste, à mes yeux, un mouvement anti-consommateur. Mais bon...
Bon, on pourrait en discuter plus longtemps. Anti-consommateur... Disons que GeForce Now propose une solution. Oui, quand tu contournes un petit peu les règles, tu peux dire que c'est pour les consommateurs. La question, ça serait plutôt, c'est pas est-ce que c'est pro ou anti-consommateur. La question, c'est est-ce qu'ils font les choses dans les règles. Et je crois que ce service est tellement différent que pour savoir si ça se fait dans les règles ou pas, il faudrait qu'on aille jusqu'aux tribunaux. Tu vois, parce que c'est un truc pour lequel on n'a pas de référence ailleurs.
Les studios avec lesquels je travaille qui ont des jeux sur GeForce Now, les choses ont été faites dans les règles pour eux. Donc eux sont contents. Tu vois.
Oui, bien, très bien. Mais quand tu dis ont été faites dans les règles, tu veux dire que Nvidia est venu leur donner l'autorisation. Voilà, c'est ça. Ouais. Et clairement, donc il faut demander l'autorisation. C'est ce que tu étais en train d'abonder dans mon sens, en fait.
Je pense qu'Nvidia l'a fait de cette façon. Je pense qu'ils auraient pu ne pas le faire. Mais ça reste c'est une grande question, effectivement, et c'est pas nous qui pourrons la régler.
Ouais. Bon, on continue avec quelques news et rumeurs qui restent. Telecom Italia a annoncé que, avec les restrictions de mouvement et la restriction des contacts sociaux, en gros, les écoles sont fermées et les gens doivent rester chez eux. Ils ont vu une augmentation du trafic internet de 70%. En grande partie due aux jeux comme Fortnite et aux autres jeux vidéo. Alors, c'est pas forcément le trafic quand les gens jouent, mais plutôt les téléchargements de mise à jour qui ne mettent même pas vraiment à mal leur réseau. Ils tiennent la route sur le réseau de Telecom Italia, mais ça provoque une augmentation du trafic conséquente, donc à noter. Pokémon Go a également temporairement rendu les choses plus faciles pour les gens qui restent chez eux et pour ne pas les inciter à aller dehors. Donc, bonne chose de ce côté-là. Mortal Kombat Legends, qui est un film animé en direct ou vidéo. Malheureusement, il ne sera pas dans les salles. Super violent et super fidèle à ce qu'est Mortal Kombat, mais pas trop mal foutu. Je vous encourage à aller voir de quoi il s'agit. On a également les premières images de Monster Hunter, le film qui a l'air de... c'est Mila Jovovich et puis c'est un petit peu les équipes de Resident Evil, donc ça sera marrant à voir si ça sera fidèle à la série. séries. On parle de séries et de films. Le film Uncharted a désormais une date. C'est quoi cette date? Mais elle sera peut-être décalée du coup, parce que vu que tout est décalé en ce moment. Mais normalement, il devrait sortir le 5 mars 2021. Et on a une série Last of Us qui est en production chez HBO avec Neil Druckmann et avec, comment il s'appelle, Mazin, le type qui a produit Tchernobyl pour HBO également. Et avec Gustavo Santaolalla qui a fait la musique de The Last of Us. Enfin, un truc, moi, ça m'a donné plein d'espoir. Ça pourrait être vraiment super cool. Il y a encore deux petites choses dont je veux vous parler. Mais sur ces sujets-là, quelque chose, une réaction? Non, rien du tout.
Je recommande d'aller regarder le trailer du coup de la série d'animation Mortal Kombat. C'est vraiment particulier et c'est très Mortal Kombat.
Ouais. Dans le bon sens du terme, je dirais. Mais moi, ça m'a plu.
Oui, moi, ça m'a plu, mais faut aimer ça.
Oui, il faut aimer ça, et c'est pas pour les enfants, vraiment. Hein, vraiment. Quand on dit Mortal Kombat, c'est Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge. C'est disponible en avril.
Moi, je suis ultra intéressé de voir ce que ça va donner, pardon, la série The Last of Us, parce que HBO déjà, bon, ça reste les maîtres en matière de bonnes séries, et derrière c'est l'équipe qui a fait Tchernobyl. Donc Tchernobyl, c'est une des meilleures mini-séries que j'ai vues l'année dernière, même la meilleure série que j'ai vue l'année dernière. Donc vraiment, je suis très curieux et assez. Je me dis que ici, je me demande. Je pense que c'est peut-être l'équipe idéale pour adapter The Last of Us aussi en série, quoi. À la base, moi, à avoir une série d'adapter The Last of Us, j'en ai strictement rien à faire. Mais maintenant, de savoir que ce sont ces gens derrière ça, ça m'intrigue beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup en tout cas.
Il y a toute une question à se poser sur est-ce que c'est la peine d'adapter un jeu qui est aussi cinématique, qui est déjà presque un truc narratif en série. On pourrait en discuter des heures, mais moi, je trouve que ça peut être très intéressant. Et puis, je serais très curieux de voir ça, de voir ce que ça donne. Est-ce qu'ils vont suivre la série du jeu, enfin pardon, suivre la narration du jeu qui est hyper intéressante? Est-ce qu'ils vont faire d'autres personnages dans le même univers? Est-ce qu'ils vont faire... Enfin bref, c'est... intéressant. Visiblement, ça reprendrait des éléments du 1 et du 2. Donc,
ouais.
Et puis, dernière chose qui s'écarte un tout petit peu du monde strictement vidéoludique, Uncensored Library, qui est une librairie qui regroupe dans Minecraft les écrits censurés par ailleurs. C'est Reporters sans frontières qui a pris cette initiative. C'est vraiment une librairie qui est comme une librairie du Congrès américaine dans Minecraft, qui a plein d'écrits censurés. Pour contourner la censure. Et puis, le dernier sujet, c'est un article qui a été publié dans VentureBeat par Dean Takahashi sur Quantic Dream et les accusations diverses qu'ils ont vues envers eux il y a quelques mois de ça. C'est important pour nous, puisque c'était des journaux français qui ont accusé le studio de diverses choses. Il y avait une enquête du Monde, de Mediapart et de Canard PC, c'était une enquête conjointe. Ça s'était pas très bien passé. Et ce qui est intéressant dans cet article, c'est que ce bon journaliste n'a parlé que à des gens de Quantic Dream avec l'accord des relations presse. Enfin, c'est un petit peu... Comment dire? C'est un côté de l'affaire... et il n'a été parlé à aucun autre aucune autre des personnes impliquées dans le truc. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter ce que dit Quantic Dream, bien sûr, il faut toujours écouter et mettre ça en perspective et en contexte. Mais quand tu n'écoutes que ce que te dit la boîte, c'est un petit peu la pire manière de faire ton métier, j'ai l'impression. Donc,
c'est un peu reprendre un communiqué de presse et le copier-coller dans une news, quoi.
Ce qui est déjà problématique en soi, mais quand en plus c'est sur des sujets aussi difficiles que des questions de harcèlement et de crunch et tous ces problèmes qui ont été évoqués à l'égard de Quantic Dream, enfin, d'ailleurs la réaction a été assez unanime hein, de la communauté jeux vidéo. C'était un petit peu mais qu'est-ce qu'il fait lui, de quoi? Et c'était même pas question de « Ah bah vous voyez, Quantic Dream a tort ou a raison », c'est même pas ça le problème, c'est même plus Quantic Dream, ils sont dans leur rôle, quoi. Ils ont trouvé un type qui fait machine à écrire pour eux et qui dit ce qu'ils veulent dire, bon, très bien, tant mieux pour eux, même si c'est pas très propre. La faute est plus celle du journaliste qui a pas compris comment ça fonctionnait, quoi. À mon sens, mais...
Oui.
Vas-y, Thomas, vas-y.
Ah, j'ai pas grand-chose à rajouter, je suis assez d'accord.
Mais sur
c'est
la...
très étrange.
Sur la question de la Uncensored Library, je crois que ça t'avait parlé, ça.
Oui, ça m'a beaucoup parlé. Moi, je trouve que c'est intéressant. Alors, évidemment... Si on censure un pays, si on prend un pays qui a de la censure, ils peuvent d'un seul coup décider de vouloir censurer la Uncensored Library, mais la nature du média et du support qu'ils utilisent, à savoir Minecraft, sous-entend qu'il faut sûrement bloquer Minecraft, et là ça devient beaucoup plus compliqué. Et je trouve que c'était un chouette, c'est une chouette initiative de la part de Reporters sans frontières de vouloir utiliser... des médias, on va dire, alternatifs pour leur objectif. Et quand le média alternatif, c'est un média jeu vidéo, c'est encore plus intéressant. Et puis ça veut dire aussi exposer ce contenu censuré à une audience qui n'est pas la mienne d'un point de vue démographique, plus jeune, plus vidéoludique, par exemple. Donc je trouvais que c'était c'est arrivé de nulle part et j'ai trouvé ça très, très inspirant.
Eh ben, une bonne nouvelle pour terminer cette émission. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Merci à tous les deux d'avoir été présents, de m'avoir accordé votre expertise. Avant de se quitter, est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver? J.K., où es-tu dans la vie?
Où es-tu? Je suis assez présent, mine de rien, un peu partout. Jeuxvideo.com pour l'actu hardware et tech, quasiment tous les vendredis sur le journal du hardware. Donc ça, c'est sur le stream, c'est à 16h30 en direct pendant 2 heures. Donc c'est une émission que je très cool. C'est pas parce que j'y suis que, mais voilà, je prends beaucoup de plaisir à faire le journal du hardware. C'est très sympa. Et toujours ZQSD, donc le podcast que vous connaissez peut-être maintenant si vous écoutez le rendez-vous jeu depuis un moment. Le dernier numéro qui vient de sortir, moi je l'aime particulièrement. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, mais là on a reçu surtout les trois, donc le réalisateur et les réalisateurs et le scénariste de Life is Strange 2, et vraiment des gens extrêmement déjà très cool, très drôle, très intéressant. Enfin, vraiment, ça fait partie des invités qui m'ont plus marqué depuis qu'on a fait ZQSD. Donc voilà, si vous intéressez. Alors, ça spoil un petit peu le jeu, donc c'est mieux si vous écoutez l'interview quand vous avez joué à Life is Strange et Life is Strange 2 surtout. Mais voilà, donc ZQSD et prochain numéro, normalement, si tout va bien, s'il n'y a pas de virus qui vient gâcher la fête, on l'enregistre la semaine prochaine.
Super, magnifique, Thomas.
Moi, je suis IcoTom sur Twitter. C'est pour le meilleur endroit pour me trouver. Et je n'ai pas forcément de contenu à mettre en avant.
Eh bien, c'est IcoTom sur Twitter. C'est déjà très bien.
IcoTom sur Twitter. Voilà. On recrute en ce moment. On cherche quelqu'un pour faire de la communication francophone. Il faut venir en Angleterre, ce qui est particulièrement... voilà. On va dire que ça va être pratique de faire les entretiens d'embauche et tout. Mais voilà. C'est aussi mon actu du moment.
Eh bien écoute, IcoTom sur Twitter, c'est très bien, et J.K. Loret sur Twitter, les liens seront dans les notes de l'émission. Vous aurez aussi les liens vers mes comptes sociaux Twitter, Facebook et Instagram. Je suis NotPatrick partout là-dessus, et je communique pas mal sur Instagram en ce moment, donc vous pouvez aller me suivre NotPatrick, ça peut être un moyen sympa d'avoir des infos et des trucs plutôt marrants. Vous pouvez aussi soutenir l'émission sur patreon.com/rdvjeux. Et d'ailleurs, je vais mettre un petit bonus, comme j'en parlais tout à l'heure, je vais mettre un petit bonus dans l'épisode qui ne sera disponible que pour les auditeurs patriotes du rendez-vous jeu, avec les sujets, quelques sujets qu'on n'a pas eu le temps de traiter, que je vais détailler en quelques minutes en fin d'épisode. Donc, émission étendue, spéciale pour les gens qui soutiennent. Ça sera dans quelques minutes si vous êtes sur le flux privé. Dans tous les cas, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous fais de grosses, grosses bises et on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode ou avec des grosses sorties. Ça va être sympa. Ciao, ciao!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.